France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Des scénarios originaux, mais aussi des pièces de théâtre adaptées et longtemps aucun roman adapté. En 2009, Innovation, Alain Resnais venait parler au micro de Michel Simon de son nouveau film adapté d'un roman préexistant. L'occasion pour le réalisateur d'évoquer sa rencontre avec l'auteur du roman, l'écrivain Christian Gailly, de son travail d'adaptation. Mais est-ce que parler d'une adaptation avec un écrivain, c'est lui proposer une distribution des décors, lui suggérer des scènes supplémentaires ou des corrections? Non, 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 non. Et tant mieux. En revanche, les discussions avaient lieu avec l'opérateur. Il fallait bien trouver des couleurs qui correspondaient au jazz. Première diffusion sur France Culture le 14 novembre 2009.
Projection privée. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alain Resnais pour la sortie de son film Les Herbes Folles. Film évidemment très attendu, très bien accueilli, pris au Festival de Cannes, ouverture du Festival de New York, s'il ne s'était pas passé depuis très longtemps pour un film français, et succès public aussi, donc vous êtes, j'espère, comblé à la Resnais. En tout cas, ce qu'il faut déjà dire, c'est que vous nous surprenez encore, puisque vous n'aviez jamais adapté de roman. Vous avez fait 17 films, 18 films.
20,
disons. Enfin,
Ça dépend comment on compte. Oui. Mais moi, je dis 20.
20, voilà. Vous avez 20 films, plus des courts-métrages très, très connus aussi. Mais vous avez eu beaucoup de scénarios originaux, d'abord. Ensuite, depuis une quinzaine d'années, des pièces de théâtre adaptées pour le cinéma, mais pas de romans. Alors, on pense à Walt Whitman qui disait « I contradict myself, well, I contradict myself. Je me contredis, eh bien, je me contredis. Donc, vous avez brisé un tabou personnel.
Oui, c'est exact. Si on s'intéresse à la toute petite histoire, comme ça, quand on m'a proposé de faire des longs métrages, ou un long métrage, bon, j'avais cette idée, comme ça, de ciné, de spectateur, enfin, que la construction d'un roman ne correspondait pas à une action dramatique au cinéma, que c'était donc une barrière énorme sur le déroulement de l'action, parce que un roman, c'est quelque chose que vous commencez à lire, puis vous posez sur la table, vous pouvez passer une nuit, puis vous reprenez, et puis même à la lecture, vous lisez une page, vous relisez le haut de la page. Bon, enfin, j'ai toujours eu une, en ce qui me concerne, parce que je suis le premier à reconnaître que des tas de grands films ont été faits à partir de romans que je n'avais pas lus, quoi. Mais il me semble que là, j'ai toujours l'impression que le spectateur a lu le livre avant d'entrer dans la salle et que du coup, il va s'ennuyer ou se dire « mais c'était tellement mieux dans le livre ». Enfin bon, donc une grande méfiance vis-à-vis du roman. Et c'est vrai que j'ai déclaré avec des copains je ne ferai jamais un roman au cinéma, mais je n'hésiterai pas à me contredire. Comme disait Aragon, je crois, quand j'ai une paire de chaussures dont les semelles sont usées, eh bien j'en change. Bon, alors, donc de toute manière, ce n'était pas une interdiction violente. Mais au début, oui, ce qui me Enfin, puis même, c'est, là, j'ai pas changé. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on me propose de travailler avec un auteur, qui se soit occupé d'art dramatique et qui écrit des pièces. Enfin, bon, parce que là, je retrouve un rapport entre le cinéma et le théâtre. C'est que dans les deux cas, vous ne pouvez pas demander pendant la représentation « Est-ce qu'on pourrait rejouer cette scène ? J'ai pas bien suivi ou j'ai été distrait. » Et que vous ne pouvez pas demander non plus dans une salle de cinéma « Est-ce qu'on peut me repasser la même bobine ?» Parce que j'ai mon téléphone a sonné et j'ai dû répondre. Enfin, alors vous me direz qu'avec le DVD, évidemment, il y a de nouvelles règles qui peuvent naître, mais si on reste simplement sur ce qui a nourri 100 ans de cinéma et 6000 ans de théâtre, si on s'amuse à donner des chiffres, il y a quand même ce point commun entre cinéma et théâtre qui ne me dérange pas du tout, c'est vrai.
Alors Joseph Mankiewicz, qui avait été producteur et à qui on avait soumis un scénario de Fitzgerald qu'il n'avait pas voulu porter à l'écran, disait qu'il y a une différence entre le dialogue d'un roman qui est fait pour être lu, qui peut d'ailleurs être totalement irréaliste, c'est-à-dire les gens chez Balzac peuvent parler pendant 4 pages, et un dialogue de théâtre qui lui est fait, comme de cinéma, qui lui est fait pour être dit. Est-ce que vous avez trouvé dans ce livre de Christian Gailly, qui est donc le premier roman que vous adaptez, L'Incident, est-ce que vous avez trouvé dans son dialogue quelque chose qui pouvait être justement transféré à l'écran sans véritable difficulté?
C'est même à cause de... J'étais en train de lire une trentaine de pièces, comme ça, enfin, cherchant ce qui pouvait à la fois plaire à mon producteur Jean-Louis Livy et être possible au point de vue financier, parce que les deux vont ensemble. Je dois dire d'abord que j'avais repéré le nom de Gailly, parce que je l'avais entendu un soir à France Culture dans une excellente émission d'Alain Weinstein, du jour au lendemain, c'est celle-là, la principale. Et la voix de Christian Gailly m'avait beaucoup frappé, son phrasé, son ironie. J'ai été très séduit par la voix de Gailly. Il s'est trouvé que dans la pile de livres que j'avais sur la moquette du parquet, il y avait pas mal de livres des éditions de Minuit, d'ailleurs, et il y avait un Christian Gailly, et je l'ai ouvert, et au bout de 30 pages, en tout cas, d'abord, j'étais très séduit par son style et sa syntaxe, mais tout de suite, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus théâtral que les pièces que je lisais et où je cherchais un film possible. Mes producteurs, Julie Salvador et Jean-Louis Livy, ont pris contact avec les éditions de Minuit, ont demandé une rencontre, et Christian Gailly est venu et j'ai commencé par lui dire « Vous avez écrit 13 romans ou 13 livres, puisque vous n'aimez pas donner le nom de roman à ce que vous écrivez. Et j'en ai lu 5, mais ça suffit pour me convaincre que le charme de votre écriture suffit pour que j'ai très envie de faire un film avec un de vos livres. Je ne peux pas encore vous dire lequel. Laissez-moi lire les 13, je suis simplement au 5e et j'enchaîne ça avec beaucoup de plaisir. Mais est-ce que les droits sont libres et les choses? Bon, chance extraordinaire, sur les 13 livres, 12 étaient libres. Alors ça me permettait d'autant plus de lui parler de cette manière. Et Christian Gailly, avec douceur, ironie et séduction, je reviens encore là-dessus, m'a dit « Oui, écoutez, je suis quand même un peu effrayé parce que si le cinéma s'occupe de mes livres. Moi, je veux réserver toutes mes forces à l'écriture du roman dans lequel je suis en train de, enfin, je suis plongé, et ça peut perturber beaucoup mon travail, et ça m'inquiète assez. Bon, enfin, on a parlé comme ça une vingtaine de minutes autour des tracas que pouvait causer un passage au cinéma d'un de ses livres. Et à la fin, je me suis lancé, j'ai dit, ben, écoutez, je peux vous faire la proposition que j'ai faite à Alan Ayckbourn, le dramaturge anglais qui, étant donné ses responsabilités de metteur en scène, de directeur de salle, de directeur de troupe, de metteur en scène et d'écrivain, avait les mêmes réserves. Et alors donc, je peux vous faire le serment que si vous me dites oui, alors on essaie de tourner le film, mais que jusqu'à la première copie standard, je ne vous téléphonerai pas, je ne vous demanderai pas de lire notre adaptation, je ne vous demanderai pas des scènes supplémentaires, je ne vous demanderai pas des corrections, je ne vous parlerai pas de la distribution. Là, il a dit, ah non, et je ne vous parlerai pas des décors, enfin, vous serez absolument tranquille jusqu'à, évidemment, la première copie, parce que là, je vous demanderai quand même de venir la voir en priorité absolue.
Si ça ne vous plaît pas, on la brûle. Si,
voilà. Ça, je pouvais guère m'engager personnellement à ça, mais vous retirez votre nom du générique et vous faites une lettre ouverte dans Le Monde pour expliquer à quel point le cinéma démolissait un livre ou édulcorait. Enfin bon, il y aura un texte intéressant que vous serez évidemment tout à fait libre de publier. Alors là, en effet, je dis toujours, son visage s'est illuminé. Il a commencé à rire et oui, il a accepté le serment. Enfin, on n'a pas fait couler notre sang pour le mélanger, mais enfin, on est descendu chez l'éditrice Irène Lindon à l'étage au-dessous. On lui a expliqué le projet sous cette forme. Elle a beaucoup ri et tous les trois, on a bavardé là encore une heure. Et je suis reparti donc avec l'autorisation de choisir un livre et même d'aller, si j'en voyais des raisons, prendre des phrases ou des passages dans les autres livres. J'avais donc 12 livres à ma disposition. Voilà, un peu longuement expliqué, mais enfin, le début de l'histoire. Donc, c'est bien à cause de son style de dialogue que j'ai pris ce livre, en n'attachant aucune importance au fait que ce soit un roman, du coup, puisque c'était le dialogue du livre qui m'intéressait.
Mais vous avez tout de même un peu caché les choses, puisque le film s'appelle « Les Herbes Folles » et pas « L'Incident ». D'ailleurs, « Les Herbes Folles » est un très beau titre, parce que je trouve que « L'Incident », certes, parce que c'est le point de départ du récit, mais « Les Herbes Folles », c'est le cœur même du film et du récit, c'est-à-dire ces personnages mus par des passions, mus par des réflexes insensés, les deux personnages principaux, j'entends celui joué par Sabine Azéma et celui joué par Dussolier, qui sont un peu comme ces herbes qui poussent à travers le bitume.
C'est parmi la cinquantaine de titres que j'ai proposé aux producteurs et aux amis, il me semble que ça définissait bien les personnages. Les herbes folles, bon, ce sont les plantes qui poussent à des endroits où il n'y a aucun espoir de vivre. Enfin, quand une graine atterrit dans une brèche de trottoir, d'asphalte ou au bas d'un immeuble, l'arbre ne peut pas pousser. Bon, quelquefois, il arrive cependant, en effet, qu'un un sapin s'installe dans un mur de pierre de ferme et les racines deviennent tellement puissantes que c'est le mur qui s'écroule. Mais enfin, vous voyez, là, je pars déjà loin dans la métaphore. Mais je veux dire, Georges Palais et Marguerite Muir, n'ont aucune raison de se rencontrer, n'ont aucune raison de se parler, et tout les oppose. C'est presque un début de comédie américaine. On se dit, puisqu'ils ne s'entendent pas, bon, ils vont. Et je ne sais pas si à la fin ils s'entendent d'ailleurs. C'est. Alors, il m'a semblé que. Et au groupe d'amis autour de moi, bon, que c'était le titre que je pouvais conserver, quoi. Enfin bon, c'est tout simple, ouais.
Quand on voit deux films, l'un venant d'une pièce de théâtre et l'autre venant d'un roman et signé par des auteurs différents, et en même temps on voit ce qui peut relier cœur aux herbes folles, pour peut-être souligner la différence entre les deux films, qui sont un peu des films jumeaux mais très différents l'un de l'autre, je pense à Gaston Bachelard, vous savez, cette série de livres qu'il a écrit sur l'imaginaire, sur les rêves étant liés à un élément, le feu, la terre, l'eau et l'air. Et il me semble que cœur, c'était plutôt la terre. C'était des personnages qui étaient poussés vers le sol, même peut-être vers le sous-sol, alors que ce film-ci, c'est plutôt l'air. C'est-à-dire, évidemment, l'héroïne étant elle-même faisant des exercices de pilotage le dimanche dans un petit avion personnel, ça incite évidemment à y penser. Mais le film est plus aérien, la tonalité est plus drôle, alors que Cœur était un film plus triste. Est-ce que vous voyez ces deux films, j'y pense, parce que c'est aussi beaucoup de personnages réunis comme ça, qui s'entrecroisent. Mais est-ce que vous voyez cette opposition dans la tonalité même ?
Toute façon, je suis très, très heureux de vous entendre dire une chose de ce genre. Mais non, je n'y ai pas du tout pensé, quoi. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt... Je me considère comme un bricoleur, quoi. Et... je réfléchis pas beaucoup à la manière dont je vais mettre en relation un film avec un autre. Le tout, c'est d'arriver à faire le film et de se concentrer sur le film. Enfin, je dis souvent que pourquoi tournez-vous ? Je tourne pour voir comment ça tourne. J'ai une curiosité pour voir... en quoi le film fini va être différent de ce qui était écrit sur le papier, quoi. Enfin, c'est ça qui. La fameuse phrase de François Truffaut, on fait toujours le film suivant contre le précédent. Oui, j'essaie de pas utiliser les mêmes procédés ou j'espère toujours que ça ne va pas se ressembler. Mais si vous voyez un fil qui réunit les deux, évidemment, je suis très heureux, je dirais presque flatté, oui.
Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vos films sont des défis formels. C'est-à-dire que ce qui vous intéresse, non pas que le fond soit négligeable, évidemment, vos films racontent des histoires, parlent de personnages, etc. Mais c'est tout de même, à chaque fois, une expérience. Vous parliez de bricolage, alors on peut dire que c'est du bricolage. On peut dire aussi que c'est un travail esthétique. C'est-à-dire, là, c'était de trouver des équivalences, donc, au style de Gailly.
Oui, enfin c'est vrai que je dis souvent que je suis formaliste parce que si je ne sens pas qu'il y a une forme qui s'élabore en même temps que la lecture du scénario, enfin bon, il y aura pas plus il y a de recherche formelle, plus j'imagine que l'émotion va pouvoir naître avec évidemment en ajoutant, à condition que ces recherches formelles éclairent l'intrigue. Voilà, il faut pas faire du décoratif. C'est ça le danger. Alors, je ne dis pas que j'y réussis, mais je cherche justement à ce que les défis formels correspondent quand même à une forme de récit souterrain qui va demander ou permettre au spectateur de ne pas quitter la salle et de rester dans son fauteuil. Donc, vous voyez les contradictions qu'il y a dans tout ça.
Mais Gailly était saxophoniste, est un amateur de jazz, et vous avez retrouvé dans son style peut-être des choses qui s'apparentaient à cette musique que vous aimez aussi vous-même beaucoup. Des phrases qui s'interrompent, des ruptures, des...
Oui, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs dans l'entreprise, et soutenu, je dirais, c'est que en cherchant ces équivalences au style de Gailly, le fait de savoir par le dossier de presse que m'avait communiqué Irène Lindon qu'il avait été 20 ans saxophoniste dans une petite formation de jazz et qu'un jour il a trouvé que ce qu'il obtenait n'était pas satisfaisant, il aurait mis le saxophone dans sa boîte et il aurait commencé à écrire, dit-il, qui était son premier ouvrage, comme ça, et n'aurait jamais retouché son saxophone. Mais à partir du moment où j'ai cette piste, c'était facile de... Justement, en pensant aux classiques, aux standards classiques du jazz qu'on peut trouver aussi bien chez Cole Porter que dans Charlie Parker ou Thelonious Monk ou John Coltrane, ça suscitait une forme qui me paraissait bien collée avec l'intrigue abracadabrante de l'histoire, quoi. Mais c'est ce qui nous a guidés, Laurent Herbier et moi, là, quand on a travaillé sur l'adaptation. Et ça a été une autre bonne raison pour choisir Mark Snow comme compositeur pour le film, parce que Mark Snow avait enfin... Ça avait des rapports au point de vue carrière. Mark Snow a travaillé à la Juilliard School, donc en gros, on peut dire, sur la musique dite classique. Et en même temps, il était aussi un instrumentiste d'une petite formation de jazz. Donc je retrouvais avec Mark Snow le même équilibre qu'avec Gailly, quoi. Sans s'être rencontrés, ils avaient quand même eu un terreau commun pour planter leurs racines, si on reste.
Mais d'ailleurs, chez vous, disons, la musique, le son de la voix, le son d'un écrivain, le son que dégage un écrivain sont très très importants. Enfin, on sait que vous n'êtes pas du tout un cinéaste réaliste, vous ne cherchez pas du tout à filmer des tranches de vie. Vous essayez de trouver une sorte de décalage par rapport à la réalité. Et de ce point de vue-là, la musicalité est un des éléments de ce décalage. Depuis le début, Marion Bass, c'était la voix d'Albert Tadzi. Il y avait la voix d'Delphine Seyrig qui était française, mais qui avait une voix chantante. Il y a Ingrid Tulin dans La guerre est finie. Il y a eu Ruggero Raimondi dans La vie est un roman. C'est-à-dire que vous aimez Eiji Okada dès Hiroshima, mon amour. Oui. C'est à travers les étrangers qui parlent français, à chaque fois, c'est une sorte de sonorité différente qui vous charme.
Oui. J'ai scandalisé un jour un ingénieur du son en lui disant on peut imaginer un film sans image, mais on ne peut pas imaginer un film sans le son. Et les films muets, ça n'a jamais été projeté sans une musique qui les accompagnait. Ça n'a jamais été fait dans le silence. Donc, et il m'a dit, mais c'est pas possible et tout. Enfin, il a cru que je blaguais. D'ailleurs, je blaguais, mais je pouvais ajouter comme preuve, par exemple, que c'était l'époque où il n'y avait pas de magnétoscope, ni de VHS, ni de DVD, et j'avais pu obtenir la bande sonore de Citizen Kane. Et à l'écoute de la bande sonore sans image, donc juste sur la radio, on peut dire, alors là, c'était éclatant que toute la qualité de composition et les rencontres des voix des acteurs du Mercury Theatre avec celle de Wells et la musique de Bernard Herrmann on voyait que, bah d'ailleurs, que Wells était un homme de radio et qui fabriquait. Ça ne veut pas dire que les images étaient inutiles, mais enfin que ça me donne en tout cas un alibi pour faire que je choisis mes distributions de comédiens, je dirais pas plus pour leur aspect physique que pour leur voix, mais enfin, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre d'un phrasé, d'un timbre de voix particulier sur un écran. Je m'amuse toujours à dire, si le film est bon, on doit pouvoir l'écouter à la radio sans envoyer l'image, quoi. Et il y a une phrase de Wells, d'ailleurs, que j'aime bien, qui dit « La radio, c'est beaucoup mieux que le cinéma, parce que l'écran est beaucoup plus grand. » Alors, on peut la placer.
Anna René, vous parliez du choix des comédiens. Moi, ce qui est très intéressant, et d'ailleurs, je crois que ça va très bien avec votre itinéraire et votre renouvellement permanent, c'est-à-dire que, d'une part, vous avez dans ce film deux comédiens qui sont des fidèles, puisqu'ils ont tourné 7 fois ensemble sous votre direction. Je ne sais pas si vous aimez le mot, mais enfin, en tout cas, sous votre guidance, Sabine Azéma et André Dussolier, qui d'ailleurs malicieusement, alors qu'ils se connaissent à l'écran depuis 7 films, vous retardez au maximum leur retrouvaille, puisque ils ne se retrouvent vraiment qu'une demi-heure avant la fin, donc pendant plus d'une heure, ils ne se voient jamais, ils n'ont aucune scène ensemble. Bon, il y a d'une part donc deux comédiens qui assurent la continuité, d'une certaine façon, de votre travail, de votre inspiration, et puis au contraire, alors, des visages qu'on n'a jamais vus chez vous, totalement nouveaux, c'est-à-dire Mathieu Amalric, Anne Consigny, Emmanuel DeVos, Nicolas Duvauchel, Sarah Forestier. Donc tout un groupe de comédiens, l'essentiel de la distribution, à part vos deux vedettes, qui sont des nouveaux visages.
Oui, mais justement, quand j'ai commencé à travailler avec les comédiens que vous venez de citer, j'ai eu l'impression que c'était déjà le troisième ou le quatrième film qu'on faisait ensemble, quoi. Je me sentais tout à fait familier avec eux, mais il est exact que le timbre de leur voix a joué énormément, leur jeu aussi, et que, je suis un grand admirateur des films d'Arnaud Desplechin. Je pouvais même avoir quelques scrupules à aller. Je m'en suis aperçu d'ailleurs qu'après, que j'avais pris tous ces nouveaux visages dans les films de Desplechin, quoi. Bon.
Alors, oui, bien sûr.
Ce Anne qui Consigny, permettait beaucoup de plaisanterie
Emmanuel
sur le
DeVos,
plateau.
Anne Consigny, Mathieu Amalric.
Et souvent, je disais, ce plan-là, on va le faire à la Desplechin. Et la script disait, arrêtez avec toujours Desplechin. Ben, je dis, écoutez, c'est mes goûts. Et je reconnais l'influence, oui, absolument.
Mais il y a aussi une chose qui est frappante dans ce film, comme d'ailleurs dans beaucoup de vos films récents, mais qui existe dès le début, parce que un peu un lieu commun, c'est de dire on ne s'attend pas à voir des films d'Alain René qui sont drôles, qui fassent sourire quand on pense à ses premiers films. Mais je crois qu'il y a toujours eu de l'humour, et en particulier, par exemple, Muriel, pour moi, est un film où il y a des éléments vraiment de comédie. Providence est un film où il y a également de la comédie, et Je t'aime aussi. C'est-à-dire que ça a toujours était quelque chose qui était présent dans vos films, mais que vous avez amplifié, à qui vous avez donné de plus en plus d'importance, l'aspect comique.
Sans faire exprès, enfin en laissant les choses arriver.
C'est des herbes folles.
Enfin,
c'est des herbes folles.
Oui, mais c'est vrai que avec Alain Robbe-Grillet, par exemple, on était tout à fait d'accord pour qu'il y ait des répliques qui fassent rire, et la même chose avec David Mercer. Enfin, évidemment, c'est prétentieux, mais on va dire Samuel Beckett voulait qu'on rie en voyant ses pièces. Bon.
Et Kafka, Kafka riait aussi, en lisant ses romans en public.
On va reprendre la célèbre phrase de Chris Marker. Et c'est là, qui est souvent cité et qu'on attribue à beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais enfin, c'est quand même lui qui l'a écrit le premier. C'est l'humour et la politesse du désespoir. Bon, vous la connaissez comme moi, mais...
Elle est de Marker.
Si on parle de Chris Marker, dans tous ses films, il y a des passages très drôles, oui.
Est-ce que vous avez pensé à Chris Marker dans cette phrase énigmatique où chacun interprète évidemment de façon différente? J'ai lu que Jean-Louis Lévy disait que c'était peut-être un souvenir d'enfance de Sabine Azéma qui revenait à la fin. Est-ce que vous avez pensé à Marker? J'y pense parce que c'est un chat. Maman, quand je serai un chat, je pourrai manger des croquettes.
La phrase est dans Gailly.
Donc, oui, certes.
Voilà, bah oui, mais je ne l'ai pas inventé.
Mais vous l'avez gardé.
Je l'ai déplacé d'une page et je n'ai pas donné au narrateur la possibilité d'expliquer que c'était la femme du fermier et la petite fille qui avait la rougeole, parce que ça alourdissait terriblement. Je sais pas, j'ai pas réfléchi, mais non, là, j'ai pas pensé à Chris. Mais peut-être c'est son influence aussi, mais j'ai été fidèle à Gailly, pour moi, c'est ça que je dis toujours, et pour moi, c'est... j'aime bien que le public participe en somme à l'action du film en imaginant des choses différentes. Du moment que ça n'interrompt pas son attention. Mais moi, c'est tout simplement, c'est pas parce qu'un avion s'écrase que la vie à 2 kilomètres de là ne va pas continuer. Bon, alors, il s'est trouvé qu'il y avait un fermier qui a vu cet avion faire de la voltige. Bon... pendant ce temps-là, sa femme fait les comptes et la petite fille est malade. Bon, mais c'est du Gailly. Là, je m'imagine, peut-être à tort, mais je m'imagine que je suis complètement fidèle à l'écriture de Gailly. Oui.
C'est comme dans le tableau de Bruegel, La chute d'Icare, où on voit Icare tout au fond qui tombe, mais les paysans continuent leur travail dans les champs.
Oui. Exactement. Ça, on ne peut pas mieux comparer.
Alors, Alain René, c'est tout de même aussi un film. Alors, vous allez me renvoyer évidemment à votre fidélité à Gailly, parce que c'est comme tous vos films, c'est très très fidèle aux écrivains que vous adaptez. En même temps, c'est du Alain René, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Il y a, par exemple, on apprend que Georges Palais, le héros, a été privé de ses droits civiques. Oui. Il y a des phrases qui sont interrompues, il y a des gens qui disent des choses qui sont contraires à ce qu'elles pensent, etc. C'est-à-dire c'est un film plein de choses trappes. Il n'y a jamais de choses vraiment définitives et claires sur un personnage. Les personnages restent dans une sorte de complexité et d'ambiguïté.
Je dirais que ça, c'est mon côté documentariste ou réaliste. Je veux dire que dans la vie courante, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans la tête de la personne qu'on rencontre ou avec qui on parle. Et on ne sait jamais comment vos propos seront compris. Et là, on va glisser peut-être vers Pirandello, qui s'est aperçu de la même chose. Bon. Ce qui est important, c'est que... Parce qu'il faut... C'est que pour tourner une scène, il faut que les acteurs et moi, on ait une complicité qui fait que ce ne soit pas « vous dites n'importe quoi » et puis sur un ton neutre et ça passera. Donc je leur demande ou je demande aux scénaristes d'écrire une petite biographie de demi-page ou de 3 pages ou autre. Je pense au scénariste que j'aimais beaucoup, Jean Gruau, qui plus le personnage restait peu de temps sur l'écran, plus la biographie augmentait. Alors il y avait quelquefois 6 pages pour un passage d'un croisement dans une entrée d'hôtel. Enfin bon. Et avec justement Anne Consigny qui joue l'épouse de Georges Palais, il y avait une histoire complète que Dussolier connaissait, mais que les autres acteurs ne connaissaient pas, parce qu'on garde toujours le secret là-dessus. mais qui nous permet, nous, de travailler. Oui.
Et Sabine Azéma écrit aussi sa biographie.
Ah oui, bien sûr. Et donc on avait à chaque fois pour jouer une hypothèse de travail qui était absolument essentielle, quoi.
Vous parliez tout à l'heure de votre côté documentariste et de votre côté réaliste, et c'est en cela que vous êtes vraiment surréaliste, c'est-à-dire que les surréalistes, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la liberté absolue de l'imaginaire, c'est un imaginaire qui est fondé sur du réel, c'est-à-dire que l'âge d'or de Buñuel, ça commence par des plans de scorpions, les surréalistes aimaient les films de Jean Painlevé, les films sur les animaux, etc. C'est-à-dire que la réalité est elle-même surréaliste, c'est-à-dire si on creuse, si on va plus loin, on découvre finalement, énormément de mystères, de contradictions, etc. Et je trouve que de tous vos films, c'est un de ceux qui se rapproche le plus de l'univers surréaliste.
Oui, mais alors, en tournant le film, je n'y ai pas du tout pensé. Ça. Et en montant le film avec Hervé Deluz, non plus, ça ne nous a pas traversé l'esprit. La seule chose qui m'a frappé, c'est que après la copie standard, mais sans que ce soit en relation avec le film directement, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'images de Gaston Modeau piétinant le violon ou arrachant les plumes de l'oreiller qui passaient dans ma tête comme ça.
Dans l'âge
d'or. Mais il a fallu que un de vos confrères m'envoie une critique. Dans lequel, alors lui, rattachait tout à l'âge d'or. J'ai été stupéfait, mais en fin de compte, très, très heureux, parce que c'était une chose à laquelle je n'avais pas pensé, et c'est vrai que...
Bon, c'est Dominique Paigny, il faut le dire, c'est Dominique Paigny dans Trafic,
voilà.
Où il parle de l'orteil, voilà, de l'orteil de Dussolier, oui, qui montre aux flics.
Si vous voulez, je trouve que c'est avoir des spectateurs sensibles et qui construisent leur imaginaire en fonction de ce qu'ils voient, c'est évidemment ce qui me touche le plus. Parce que si j'avais fait exprès, je crois que si j'avais pensé à ça, j'aurais pas fait le plan. Non, sûrement pas. Mais il est venu comme ça et...
Mais je dirais aussi que vous êtes surréaliste dans votre goût aussi, dans votre côté piéton de Paris, pas seulement piéton de Paris, piéton de banlieue, puisque ce film se passe aussi en banlieue, ou piéton de Providence dans Providence, ou piéton en Bretagne dans Mon Oncle d'Amérique, ou piéton dans Boulogne-sur-Mer dans Muriel. C'est-à-dire que chez vous, les lieux sont tout de même très très importants. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très très qu'on retrouve dans Nadja, qu'on retrouve dans tous les grands textes surréalistes. Vous êtes un arpenteur. D'ailleurs, c'est Benayoun qui avait intitulé le livre qu'il vous a consacré, l'arpenteur de l'imaginaire. Mais vous n'êtes pas seulement arpenteur de l'imaginaire. Vous êtes arpenteur aussi du réel.
Oui, seulement peut-être. Est-ce que c'est un vrai réel? Voilà. Mais enfin, c'est vrai que j'étais un arpenteur des passages Pommeraye à Nantes ou des passages des panoramas à Paris le samedi après-midi. Je faisais souvent des balades comme ça. Et quand j'ai découvert que ma passion pour les buts de Chaumont était partagée par dans le paysan de Paris d'Aragon. Ça m'a fait beaucoup de ça m'a procuré beaucoup d'émotions quand même. Je dis ah bon, donc on n'est pas les seuls à ressentir ça. Ouais. Et surtout que j'avais j'avais lu le paysan de Paris bien avant, mais j'ai mon premier film, mais qui était muet en 16 mm. Bon. Mais enfin, puisqu'il dure une heure et demie, j'appelle ça un premier film.
Avec Gérard Philippe, je crois, non ?
Oui, aussi. Oui,
comme
oui.
Acteur
oui, il y avait Gérard Philippe. Il y a...
En 46.
Je sais pas, il y a Daniel Gélin, il y a... Enfin, tiens. Il y a... Non, non, c'est Daniel Delorme. Bon. Mais ce film s'est auto-détruit parce que la pellicule inversible, c'est pas stable. Bon, alors.
C'était donc, comment ça s'appelait? Fermé
ouvert, ouvert pour cause
ouvert
d'inventaire.
Ouvert pour cause d'inventaire.
Oui, oui, c'était. Pour ça que j'ai dit que j'avais fait 20 films, même si vous en trouvez 19. Alors, bon, mon goût pour la peinture de Max Ernst ou de Yves Tanguy, c'est. Oui, ça se rattache en effet, à l'école surréaliste, si tant est qu'il y a eu une école
constituée
réellement et non pas un exercice d'autorité mutuelle avec exclusion et autres. Quand on rentre dans la petite histoire, alors évidemment, on est un peu attristé. Mais si, quand on est un petit breton, oui, on dirait, arrière-petit-fils de fermier et de paysan vannetais, évidemment, quand on découvre ce genre de littérature et de cinéma, d'ailleurs, c'est une bouffée d'oxygène qui arrive comme ça. Enfin, on se dit, ah bon, mais le cinéma, ça n'est pas que les films que je vois au cinéma de la Garenne à Vannes. Il y a aussi, on peut faire autre chose avec ça. Bon, et l'écriture,
oui,
pareil.
Donc, on peut remonter plus loin que vos grands-parents, parce que tout de même, la Bretagne, c'est aussi Brocéliande, c'est le Graal.
Voilà.
C'est tout de même, vous êtes celte. Oui, c'est tout de même pas tout à fait français, quoi. C'est une dimension imaginaire.
Et d'ailleurs, toujours pour. Je n'ai croisé André Breton qu'une seule fois dans ma vie, et c'était le passage Vivienne, comme par hasard. Bon, mes parents se sont, mon père était pharmacien, là, se sont promenés un jour dans la forêt de Pimpon, donc qui est celle de Brocéliande, et ils ont croisé André Breton qui marchait aussi dans les chemins de la forêt. Bon, alors. On peut voir dans tout ça des intersignes, comme disent les Bretons, dans les légendes de la mort d'Anatole Lebras. Bon, tout ça peut se mettre ensemble pour faire ce que Raymond Queneau appelait dans Saint-Glinglin la brouche-coutaille, qui était le plat de Saint-Glinglin. Oui, c'était la.
On parle des lieux, il faudrait parler aussi des maisons. C'est-à-dire que l'architecture joue un rôle très important. Évidemment, vous avez travaillé tout le temps avec Jacques Saunier, enfin très longtemps, et jusqu'à ce film. L'architecture, c'est très important. Les couloirs de Marienbad, le château de Providence, les maisons de Muriel. Dans ce film aussi, les lieux sont très importants. Dans Cœur, le précédent film aussi. Pour vous, c'est très important, cette vision, disons, du lieu dans lequel va se passer.
Il faut. Oui, c'est établir une espèce de cohérence de l'imaginaire entre les personnages et les endroits dans lesquels ils vivent. Ça, oui, ça c'est vrai que j'y pense. Et, d'ailleurs, on demande toujours quels sont les films que vous auriez rêvé de faire et qui ne se sont pas faits. Bon, j'avais préparé un très gros dossier sur l'architecture et sur ce qui arrivait, en effet, à un architecte quand il était au 46e étage et qui s'apercevait que la forme était remarquable, mais que des tourbillons de vent se produisaient, qui étaient de véritables tempêtes, et qu'à partir du 47e étage, l'immeuble s'écroulait. Bon, enfin, pareil, c'était le nœud du drame. Et comment à la fois continuer à construire en somme, un building imaginaire, après, parce que c'était beau sur le papier et tout. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là, bon, et que l'imaginaire se révolte contre vous, bon. Mais c'était très cher, très très cher à faire. Et, ça n'a jamais même été commencé, en fait. Mais le dossier, oui, est très épais, oui.
Mais Alain René, le rôle du décor dont vous parlez, ce qui est intéressant, c'est que vous ne venez pas du théâtre, même si le théâtre a joué un rôle considérable dans votre vie, d'abord comme spectateur quand vous étiez adolescent, et vous avez même été un peu acteur. Mais tous les cinéastes qui viennent du théâtre ont donné de l'importance au décor, comme vous le faites, alors que vous ne venez pas du théâtre. Je pense à Wells, à Lozay, à Visconti. Enfin, tous les gens qui ont été d'abord dans le théâtre accordent au décor une importance considérable. Mais de ce point de vue-là, on peut dire aussi que Les Herbes Folles va non pas à 100% contre Cœur, mais d'une certaine façon se différencie, comme vous le disiez, chaque film s'oppose au précédent, puisque dans Cœur, tout était en studio, alors que dans Les Herbes Folles, vous mêlez le travail en studio et le travail en extérieur, puisque vous retrouvez les lieux de Christian Gailly, le Kremlin Bicêtre, enfin plusieurs endroits de la banlieue parisienne.
Ah ben, là, j'ai été fidèle, en effet, à ces descriptions-là. Et je trouvais assez. Enfin, comme Georges Palais, puisque son père n'a jamais pu devenir pilote, lui non plus, mais il y a ce rêve tout à coup de voler, en effet. Et plus le contraste entre la première partie du film, ou les deux tiers du film et le dernier tiers de la fin, ça me paraissait en effet tout à fait intéressant. Il est possible, justement, si on a un opérateur comme Éric Gautier, d'arriver à faire de ce contraste quelque chose de positif, mais qui reste cohérent avec le style des images des deux premiers tiers. Voilà, c'était ça le point important pour nous.
Avec Éric Gautier, d'ailleurs, vous avez fait un film où la caméra est aérienne. Ça va encore avec le thème de l'air.
Oui,
en particulier dans cette réunion de famille. Ils sont tous réunis et la caméra circule avec une liberté totale.
Oui, ça c'est... Tout ça était conscient, quoi. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais enfin, il y avait... Mais ce n'était pas solennellement en disant, puisqu'on parle d'aviation, non. C'était comme ça dans le livre, et on a suivi avec joie cette direction, mais c'est à peine si on en parlait sur le plateau, non. C'est très agréable. Avec Laurent Herbier, il n'a jamais écrit un résumé en deux pages, et puis en 36 pages, et puis une adaptation avec les dialogues. Non, c'était à mesure, et on a tout de suite commencé par le découpage technique. Et ça n'est qu'après, on a essayé de faire un résumé, et d'ailleurs... une fois résumé, ça ne nous plaisait pas beaucoup. Enfin, donc, on est resté avec un découpage technique qu'on ne pensait pas d'ailleurs respecter au tournage et puis qui, en fin de compte, est très ressemblant. Ça, c'est les surprises.
Mais vous parlez de Laurent Herbier, mais vous aviez un deuxième scénariste, Alex Reval.
Disons, c'est un copain de collège... mais qui n'était là que pour, disons, donner son avis et critiquer un auditeur libre. Et je ne suis pas sûr que ce soit avec son autorisation qu'on ait utilisé le nom.
Est-ce que vous avez aussi...
c'est mystérieux comme le film, oui.
Est-ce que vous aviez avec Gautier des discussions sur certainement sur le chromatisme, sur les recherches des couleurs?
Ah oui, oui, oui. Et ce qui nous... où on faisait très attention, et j'espère que c'était à ne pas faire une belle image avec des audaces chromatiques qui correspondaient pour moi à du jazz, du travail sur le motif, en somme, et que ces recherches chromatiques soient isolées par rapport au plan qui précède et au plan qui suit, c'est la vieille loi qu'on connaît bien, et qu'il n'y a pas tout à coup une image qu'on puisse isoler sans penser aux 15 autres qui sont autour. Et que ce soit, je redis ce qu'on a dit il y a 10 minutes, que ce soit quand même en fonction de l'intrigue pour l'éclaircir ou pour la solidifier ou autre. Et... comme j'aime bien, en effet, que les lumières changent pendant une séquence, sans qu'on s'en aperçoive. Évidemment, il ne faut pas que le spectateur... quelquefois, on me parle du plan d'André Dussolier dans Mélo, qui dure 9 minutes, où il fait un long récit. Et on me dit que c'est très courageux, parce que la caméra fixe est comme ça, sous une seule lumière. En réalité, il y avait un jeu d'orgue. Je crois qu'il y a 19 lumières différentes qui se succèdent et la caméra est en mouvement. Mais moi, je suis très content quand on me dit « vous avez fait un plan fixe courageux ». Mais dans la réalité, moi j'étais aussi content de voir que les sources de lumière ne correspondaient pas à la fenêtre à gauche quand les lumières venaient de droite. Je trouve qu'il faut profiter du cinéma pour être libre.
Merci beaucoup Alain René. On pourrait parler des heures avec vous. Par exemple aussi cette phrase de Flaubert que vous extrayez du livre de Gailly et que vous mettez en titre, en intertitre dans le film. N'importe, nous nous serons bien aimés. Alors à mon tour de vous remercier puisque ça fait 55 ans que vous n'avez pas cessé de me surprendre. Et donc j'en suis encore très heureux avec ces herbes folles, évidemment que mes auditeurs vont aller voir et qui est sorti donc il y a une dizaine de jours et avec succès. Donc merci beaucoup Alain René et dans quelques instants ce sera le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, eh bien, c'est pour les Parisiens de prendre le train. Amiens est à 1 heure. Pour les gens du Nord, c'est d'y aller, c'est encore plus facile. Et peut-être même de plus loin, puisque c'est un des meilleurs festivals de cinéma qui existent en province. Et il y en a de remarquables. Avec un programme extrêmement riche, puisque à la fois, il y aura un hommage au studio Yeşilsan. Vous ne connaissez pas, mais c'est un des grands studios turcs. Il y aura un hommage aussi à une diva du cinéma turc, Turkan Soray, qui est, d'après le catalogue, à la fois Sophia Loren et Catherine Deneuve, c'est dire. Il y aura Guillermo Arriaga, le grand scénariste des Amours chiennes, de Babel, de Trois enterrements, etc. Et je reçois le directeur de ce festival, Jean-Pierre Garcia, pour nous parler de ce qui a retenu mon attention, enfin tout en fait retient mon attention, mais particulièrement la représentation de la Révolution mexicaine. On est à 1 an du centenaire de la Révolution mexicaine. La représentation donc de la Révolution mexicaine dans le cinéma non seulement mexicain, avec des films rarissimes qui arrivent de Mexico, mais aussi dans le cinéma mondial et en particulier le cinéma américain. Alors Jean-Pierre Garcia, comment vous est venue cette idée ?
En fait, on a toujours travaillé sur la représentation d'une culture, d'une part, par les gens de ce pays et par la manière dont les autres peuples le peuvent l'exprimer, Hollywood, l'Europe et les cinémas divers et variés. En ce qui concerne le Mexique, c'est un fait qu'il y a toute une réaction mexicaine en termes de cinéma face à Hollywood, face aux voisins. C'est comme si, d'une certaine manière, ce qui s'est passé entre Pancho Villa, qui était au nord du Mexique, avec le voisin qui était juste de l'autre côté du fleuve, se retrouvait dans le cinéma également. Par exemple, on peut dire que le film de Jack Conway, Viva Villa, qui a été un tournant en 1936, a répondu du côté du Mexique toute une série de films, mais en particulier le fameux Vámonos con Pancho Villa de Fernández de Fuentes, une trilogie, 3 films clés, porte un point de vue mexicain, parce que on peut pas dire que le film de Conway soit un mauvais film ou même un film anti.
Et de Howard Hawks aussi. Il faut dire que Howard Hawks a travaillé sur le film.
Il a travaillé sur le film, évidemment. Et on peut pas dire que ce soit un mauvais film, mais les Mexicains étaient choqués parce que le comédien qui interprétait Villa était au départ un acteur de comédie, voire burlesque à leurs yeux. Et donc c'est Wallace Berry qui justement était un comédien avec des rôles caricaturaux, comiques, etc. Très bon comédien aussi. Et pour eux, c'était pas choquant que le père de la nation soit représenté comme ça. Et au long de l'histoire du cinéma, on découvre qu'il y a un lien entre ce que les Américains disent de la Révolution mexicaine, ce que les Mexicains peuvent répondre. Et ça a commencé très tôt, cette affaire-là. Il y a un fameux film tourné en 1915, qui s'appelle The Life of General Villa, et dans lequel il y avait justement Raoul Walsh qui interprétait le jeune Villa, et les scènes réelles de Villa, c'était les batailles qui étaient filmées, et c'était la Mutual qui a produit. Ce film-là a totalement disparu aujourd'hui. Ça fait partie aussi des mystères, de la légende qui entoure ce personnage. Et tout au long de l'histoire, on s'aperçoit que Villa, beaucoup, parce qu'il était médiatique en quelque sorte, et c'est les débuts aussi de la médiatisation par le cinéma dans le monde entier, et un peu moins Zapata, sauf bien sûr l'énorme film qu'on connaît d'Elia Kazan, et que bien sûr on va passer pour la xème fois dans le cadre du festival, c'est avec ces différents personnages-là, on a comme une légende qui s'est construite. Villa était lui vu comme une espèce de Robin des Bois qui prenait aux riches pour distribuer aux pauvres. Zapata, lui, c'était plutôt la terre qu'il voulait rendre, et se sont bâtis des deux côtés. Alors des films qui apportaient et exprimaient un point de vue. Alors des films très rares, des documentaires aussi assez fouillés, et les Mexicains eux-mêmes vont chercher les racines de l'histoire du cinéma. Un film qui s'appelle Los Rollos Perdidos de Pancho Villa, ça veut dire les bobines perdues de Pancho Villa, où un Mexicain traverse toute l'Europe et toutes les cinémathèques et aux États-Unis aussi, pour aller dire comment ces films, qu'est-ce qu'il est devenu, pourquoi est-ce qu'il a disparu. Et on voit surtout, ce qui est extraordinaire, un film qui s'appelle Acme, un petit documentaire dans lequel tout simplement on voit la vie de deux tourneurs, de deux cinéastes, de distributeurs et diffuseurs de films mexicains qui vivent entre le nord du Mexique et le sud des États-Unis, et qui ont littéralement, au fil des ans, réinventé un film avec des extraits pris dans des films américains, des westerns, des films mexicains. Ils appellent ça La Revancha de Pancho Villa. C'est un petit peu la note, la particularité de ce programme-là.
Alors, après la guerre, il y a eu aussi les films du metteur en scène mexicain le plus célèbre. Je ne parle pas de Buñuel, évidemment. El Indio Fernández. C'est-à-dire des Enamorada, Flor Silvestre, qui sont des mélodrames avec Maria Félix, Pedro Armendariz.
C'est une et autre. Dolores del Río.
Et Dolores del Río. Une autre façon de montrer la révolution mexicaine.
Oui, c'est un autre regard. Là, on est dans le mélodrame, dans la comédie romantique. Enamorada, qui est un grand classique, c'est une adaptation de La Mégère apprivoisée. Mais La Mégère apprivoisée mise avec en fond, avec en background, la révolution mexicaine. C'est également la particularité, parce que le cinéma mexicain dépendait aussi du contexte politique de l'époque du Mexique. Il ne pouvait pas montrer et dire exactement ce qu'il voulait. Il a fallu attendre. Il y a une véritable rénovation qui s'est opérée à partir de 1960. Nous avons trois films en ce sens. Un qui s'appelle La Sombra del Caudillo, ça veut dire l'ombre du dictateur directement, qui est un film qui a été censuré pendant 35 ans parce qu'il mettait en cause le rôle de l'armée. Après la révolution mexicaine, mais c'était la politique aujourd'hui du Mexique. Il y a bien sûr ce film que nous connaissons, nous, en France, il avait eu le prix Georges Sadoul à l'époque, Reed, Mexico Insurgente.
Sur John Reed.
Sur John Reed, qui a été réalisé par Paul Leduc, qui nous rejoint au festival également, qui est le film clé, le tournant du cinéma. Et il y a d'autres petites choses particulières aussi sur la place des femmes dans la révolution mexicaine, avec un film qui s'appelle La Soldadera, ou d'autres qui s'appellent El Principio, où on voit, en fait, d'où est surgi réellement Pancho Villa, le mouvement de Pancho Villa, le mouvement de Zapata, et cette idée de révolution mexicaine qui est beaucoup plus complexe et riche qu'il y paraît, même si il n'y avait pas à proprement parler une idéologie révolutionnaire entre guillemets. C'était un mouvement qui venait véritablement des gens, qui du peuple, tout simplement.
Il faut dire aussi que il y a un oxymore magnifique dans le gouvernement mexicain, c'est l'intitulé du parti au pouvoir. Pendant 70 ans, c'est un seul parti qui a été au pouvoir. Il s'appelle Parti Révolutionnaire Institutionnel. C'est-à-dire que c'est tout à fait symptomatique. Alors, ils étaient très chatouilleux de la façon dont les étrangers, dont en particulier Kazan, qui a eu beaucoup de mal pour tourner son film. Et puis après, il y a eu tout de même deux films notoires que vous montrez aussi, qui sont dans les années 60, La Horde Sauvage de Peckinpah et Les professionnels de Richard Brooks.
On a pensé à Bandido aussi, et on a passé aussi également, on va montrer des films qui sont le western italien, avec l'excellente copie, la nouvelle copie qui vient de sortir du film de Sergio Leone, Il était une fois la révolution, Giù la testa, et des choses un peu plus rares comme El Chuncho et d'autres films, d'autres comédies italiennes. On arrive à avoir on voit se rejoindre le cinéma international et le cinéma mexicain, en tout cas une partie du cinéma mexicain, sur le regard porté sur ce mouvement de fond qui a traversé le pays et sur toutes les questions qu'il a fait surgir tout au long du XXe siècle.
Est-ce que vous allez montrer aussi ces corridos, ces mélodrames chantés sur la révolution?
On ne va pas tous les montrer.
Ah non, pas tous, mais vous en montrez des échantillons.
On est des échantillons, pas plus. On est là dans... On aimerait tout montrer. On a essayé de d'aider le public à comprendre, mais j'ai dans une documentation. On va publier un livre prochainement, le Festival d'Amiens autour de la Révolution mexicaine. Et par exemple, j'ai une prière à Pancho Villa qui est aujourd'hui adulée comme si c'était un saint. Une prière qui demande la protection, qui demande l'aide, avec même des autels et littéralement comme si c'était une sainte vierge. Dieu sait qu'il ne l'était pas trop.
Voilà, donc merci Jean-Pierre Garcia. Je signale aussi parmi cette corne d'abondance qu'il y a aussi la continuation d'un cycle de films que vous avez commencé l'an dernier sur l'Acteur Studio, puisqu'on parlait de Marlon Brando et de Viva Zapata. Donc il y aura aussi un livre publié sur ce sujet. Donc c'était, nous étions à Amiens pour ce 29e festival qui se poursuit donc jusqu'au 21 novembre. C'était Projection Privée, une émission de Michel Simon, à la réalisation Olivier Bétard, Jean-Richard Dufour à Paris, Mohamed Miladi à Amiens. L'émission était préparée par Laurence Genepin.
C'était Projection Privée par Michel Simon. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 novembre 2009.